2 ans,
2 ans, ouais. 2021, exactement.
Voilà, un très beau livre, il est à la procure, par exemple.
Attends, mais c'est pas tout, tu dis rien, là, t'as rien dit, Emmanuel.
Mais
il a fait sa thèse sur la sagesse.
Le proverbe, voilà.
Très, très, très calé aussi en 17, pour la théologie du 17e, hein, si je me souviens.
Théologie, non, mais surtout Bossuet.
L'histoire, Bossuet.
Bossuet, oui. Voilà. Bossuet, qui est mon compagnon depuis que je suis mon plus jeune âge, quand j'avais 15 ans, où j'avais acheté une... Non, 15, c'est pas 15 ans, quand j'avais 17 ans, que je passais mon bac, j'avais eu une prime, donc j'avais acheté une édition complète de Bossuet, l'édition L'Achat, vous voyez, qui me suit depuis ce moment-là. Et donc Bossuet, c'est mon grand frère, hein, je peux le dire.
C'est pour ça que vous êtes pas dominé.
C'est bien, je suis pas dominé. Ça va être ça.
Voilà, alors, donc on a à peu près jusque vers 10h15 environ, oui. Alors, oui, je vais commencer par, vous savez qu'Œdipe roi, d'après Aristote, est la plus parfaite de toutes les tragédies classiques. Parce qu'elle est commandée par ce qu'il appelle une intrigue de reconnaissance, c'est-à-dire que le dévoilement de l'identité du personnage principal, c'est ça qui fait qui dirige tout le développement de l'intrigue. Alors, vous vous souvenez comment ça commence ? Le roi de Thèbes, Laïus, reçoit des dieux un oracle épouvantable. Il engendrera un fils qui tuera son père et épousera sa mère. Donc, horrifié, il tente de se débarrasser du fils que son épouse Jocaste a mis au monde. Oui, mais le problème, c'est que c'est justement en abandonnant l'enfant qu'il met en route la série des catastrophes qui permettront l'accomplissement de l'oracle. Puisque, en fait, rien ne serait arrivé si l'enfant avait été tranquillement élevé au palais, comme tout le monde, entre son père et sa mère, qui lui aurait enseigné qu'il ne convient pas aux enfants de commettre des actes aussi répréhensibles. Bref, les efforts pour empêcher la réalisation de l'oracle sont justement ce qui va lui permettre de se concrétiser. Œdipe est un enfant trouvé, c'est-à-dire sans identité propre. Et la sienne est tout entière à construire, puisqu'il grandit sans avoir de passé. Donc, son existence est prise entre la liberté par laquelle il se fait lui-même, en utilisant toutes les ressources de l'intelligence et du cœur. On pourrait dire que Œdipe est le premier self-made man. Donc son existence est prise entre la liberté par laquelle il se fait lui-même, où tout est à construire, où tout est à élaborer, à partir d'une page blanche, et d'un autre côté, le déterminisme de l'oracle qui pèse sur lui. Alors vous connaissez les étapes. Un jour, il croise un homme qui ne veut pas lui laisser la priorité à un carrefour. Donc, il tue le malotru, sans savoir que c'est son père, et qu'il réalise ainsi la première partie de l'oracle. Bientôt, aux portes de Thèbes, il répond aux énigmes du sphinx, et en débarrasse la cité. Le prix du vainqueur est d'épouser la reine veuve, et de prendre la place du roi des fins, et ainsi s'accomplit la deuxième partie de l'oracle. Donc, vous voyez, l'intrigue de reconnaissance dans Œdipe roi se noue autour d'un destin inexorable qui est formulé par un oracle des dieux et d'une liberté illusoire. En fait, la tragédie raconte comment Œdipe devient le criminel épouvantable que les dieux l'ont déterminé à être. Et d'autre part, les efforts par lesquels il croit contrôler sa destinée, bâtir sa réussite sur son seul mérite, bref, à se faire un nom parmi les hommes. Vous savez qu'en grec, donc c'est, le titre c'est Oedipus Tyrannos, non pas Oedipus Basileus, mais Tyrannos, tyran. Vous savez que dans l'histoire politique de la Grèce, Les tyrans, c'est une étape par laquelle la royauté sacrale commence à se laïciser en quelque sorte, au profit de quelqu'un qui concentre tout le pouvoir en sa propre personne à partir de son génie propre, hein, une sorte de surhomme, si vous voulez, hein, déjà, qui incarne une nouveauté rationaliste presque dans le champ politique. Et on peut dire qu'avec Œdipe, ce qui émerge, c'est l'ordre conventionnel de la cité, partiellement détaché de la nature, en tout cas de l'ordre sacral et cosmique qui caractérisait la royauté antique. Une politique, si vous voulez, qui devient une sorte de techné artificiel, hein, et qui donc est bien l'expression de cette liberté nouvelle. Et et vous savez, au cœur de la pièce, vous avez l'énigme du sphinx qui est cet animal, hein, qui marche à trois pattes le matin, à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois pattes le soir. Et cet animal, c'est l'homme. Vous voyez, au cœur de Œdipe, au fond, la grande question, celle qui détermine son destin, c'est la question sur qu'est-ce donc que l'homme ? Antigone est d'ailleurs la fille d'Œdipe, et c'est elle, c'est dans sa pièce, celle qui est consacrée, que le cœur entonne cette formule tout à fait extraordinaire. Nombreuses sont les choses admirables ou terribles, mais il n'y en a pas de plus admirable que l'homme. Donc, vous voyez, ce qui fait en fait l'intrigue de Reconnaissance, c'est la tension entre le déterminisme de l'oracle des dieux et la liberté par laquelle il essaye en quelque sorte d'y échapper sans le savoir. Et du coup, évidemment, entre le nécessaire, l'absolument nécessaire et l'absolument contingent, ben vous avez tout l'espace qui permet de déployer ce texte qui est l'énigme de la condition humaine, hein, en quelque sorte, signifié là-dedans, et qui est comme signifié au cœur même de la pièce par la question quel est cet animal, etc. Vous voyez. Donc vous voyez évidemment que la pièce, elle a une connotation anthropologique. En même temps, vous allez voir, j'y reviendrai après, c'est clair que en réalité, Œdipe roi est l'histoire d'un échec, puisque en définitive, celui-là même qui aura permis la construction de cette liberté absolue, c'est-à-dire de l'enfant trouvé, en fait c'est ça qui va permettre l'accomplissement de l'oracle des dieux. Oui, c'est d'un paradoxe total. C'est-à-dire que c'est ce que l'on croit être l'instrument de la libération est en fait l'instrument de son assujettissement à un ordre cosmique qui le dépasse, qui est inexorable et contre lequel qui finira toujours par l'emporter. Donc évidemment, c'est pour ça que c'est une pièce absolument prodigieuse et qui exprime de façon chimiquement pure la vision du monde de la Grèce, tragique, hein, des Grecs de l'Antiquité. Et donc, au cœur de ça, vous trouvez bien cette intrigue de Reconnaissance. Qui est-il vraiment ? Alors, vous savez qu'on peut totalement... tout ce canevas nous fournit une grille explicative absolument remarquable pour les évangiles et tout à fait pertinente. Parce que, après tout, les évangiles sont bâtis sur une intrigue de reconnaissance, celle de l'identité de Jésus, comme le père Urfels nous l'a encore une fois magnifiquement prêché lors de aujourd'hui même, comme il nous l'a dit. On est au milieu de l'évangile, et pour vous, qui suis-je ? Vous voyez, donc, on pose la question de l'identité du Seigneur. Bon. Avec des analogies qui l'apparentent à Œdipe roi. Tout d'abord, l'identité de Jésus est déterminée par les oracles. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je vais y revenir. Mais je vous donne... cette liste des lieux dans les évangiles, parce que ça apparaît dans plusieurs, où le Christ lit sa destinée présente et surtout future, hein, ce qui va lui arriver, à l'accomplissement d'une destinée, disons pas un destin, mais d'une destinée qu'il n'a pas lui-même élaborée, mais qui lui est transmise en quelque sorte. Et c'est les fameux passages où, dans le grec, on dit « dei », hein, « il faut ». Alors, vous voyez, par exemple, « aux autres villes, il faut que j'annonce l'évangile ». Luc 4, 43. « Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Il faut que je poursuive ma route, car il n'est un profeur en dehors de Jérusalem. Zachée, il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Il faut que s'accomplisse pour moi cette parole de l'Écriture, il a été compté avec les scélérats, donc la citation du psaume. Ensuite, l'ange à la résurrection. Rappelez-vous comme il vous a parlé quand il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs. Ensuite, les pèlerins d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et là, juste avant l'ascension, « Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors ensuite, chez saint Jean, « Ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. » Élevé, donc, si vous voulez, voilà, glorifié. « Il lui fallait traverser la Samarie. » Ça, c'est juste avant l'entretien avec la Samaritaine. « Il me faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » J'ai d'autres brebis, celles-là aussi, il faut que je les mène. Il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon, donc là, autre psaume. D'après l'Écriture, il devait ressusciter entre les morts, là pour le coup c'est l'évangéliste qui intervient, juste avant l'apparition à Marie-Madeleine. Alors, il ne vous aura pas échappé quand même que dans tous ces « il faut », déjà, vous avez plusieurs qui sont en effet liés à l'accomplissement d'un oracle. Donc c'est bien une parole de l'Écriture qui, en quelque sorte, doit s'appliquer à lui. Vous constatez aussi que ça correspond à une voie, même si l'Écriture n'est pas explicitement mentionnée, mais qui situe Jésus dans la lignée de la continuité de la révélation depuis l'Ancien Testament. Il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem, donc il faut que je poursuive ma route. Parce que il faut qu'il meure à Jérusalem. C'est là qu'il doit accomplir sa Pâque. Vous avez vu aussi que ces « il faut » sont souvent liés avec le mystère par excellence, qui est la passion et la glorification. D'ailleurs, le mystère pascal dans sa totalité, souffrance et résurrection. Il faut que j'annonce l'évangile, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Bref, vous savez que c'est il faut, en général, exprimant quelque chose qui définit la totalité, en quelque sorte, hein, de l'œuvre de Jésus. C'est pas des points accessoires ou particuliers, c'est pas il faut que j'aille acheter une baguette de pain, hein, ou il faut que j'aille visiter maman. Voilà, bon. Non, c'est des choses qui, en quelque sorte, chacune à leur manière, synthétisent un peu la globalité de ce que Jésus est venu opérer. Et alors, donc, souvent en lien avec l'accomplissement d'un oracle. Et puis, il y a quand même le clou, hein, que je ne vous ai pas encore donné. La première parole conservée de Jésus, qu'est-ce que c'est ?
Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois sur mon père ?
Voilà, c'est ça. Alors, c'est Luc 2, 49. Vous me cherchiez, est-ce possible, comme traduisait c'est pas des places, peu importe, vous me cherchiez, est-ce possible, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Alors là, un petit joyau, un petit gemme que saint Luc nous a préservé, puisque c'est la première parole du Seigneur prononcée à l'âge où un enfant juif doit solennellement assumer l'héritage de la loi, à l'âge de 12 ans, en la proclamant solennellement, en la faisant sienne en quelque sorte, en disant que cette alliance faite avec les pères l'engage lui aussi. Et donc il assume en fait cet héritage-là, et à l'âge où il est habilité à le faire par la loi elle-même. Et pour dire quoi ? Devant saint Joseph, qui est quand même son père, rappelez-vous ce que dit la Sainte Vierge, pourquoi nous as-tu fait cela, mon enfant ? Ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Mais je dois être aux affaires de mon père. Donc, je veux dire, quand même, il faut avoir un petit peu de... Devant Saint-Joseph, là, voilà, Saint-Joseph prend soin dans les dents, hein, et je dois être l'affaire de mon père. Donc, ce que vous avez ici, c'est la clé de toute la révélation, c'est-à-dire la conscience que Jésus a eue de sa filiation unique par rapport à Dieu. Que par rapport à Joseph, il est un fils légal, hein, selon d'ailleurs une logique que nous détaille la généalogie selon saint Matthieu. Mais en revanche, du point de vue de la nature, il est le fils du Père. Donc il faut que je sois aux affaires de mon Père, c'est-à-dire qu'il faut que je sois totalement donné à son projet à lui, dans la relation filiale qui m'unit à lui. Et vous avez un autre lieu d'ailleurs important, il n'y a pas l'expression « il faut », mais c'est en Matthieu 11, « Je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché cela aux sages et aux savants, et que tu l'as révélé aux plus petits. Nul ne connaît, oui Père, tel a été ton bon plaisir, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » L'hymne de jubilation, cette météorite au sein de l'Écriture, puisque en apparence, elle n'est pas liée ni à ce qui précède, ni à ce qui suit, elle exprime quelque chose que nous ne saurions pas par ailleurs, c'est-à-dire la jubilation du Christ dans sa filiation unique par rapport à Dieu, et tel est le contenu du mystère que Dieu a révélé aux sages et aux savants et a caché aux tout-petits. Comment ? Ah pardon, a révélé, pardon, que Dieu a caché aux sages et aux savants et a révélé aux tout-petits. Voilà, excusez-moi. C'est bien, vous suivez, puisque vous aviez redressé vous-même, c'est parfait. Vous voyez, ça, c'est tout à fait intéressant, parce que quand vous regardez la paternité de Dieu, hein, dans l'Ancien Testament, c'est un concept absolument magnifique d'ailleurs, qui signifie la relation d'alliance, la relation de bienveillance, d'éducation, d'amour. Hein, bien entendu, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Oui, mais ce dont Jésus, quand il parle de la paternité de Dieu, de la sienne par rapport à Dieu, c'est de la paternité au sens propre, et pas dans un sens métaphorique. C'est ça la grande différence. Et donc, évidemment, cette relation paternelle et filiale est la pierre angulaire de toute la révélation, puisque c'est du Père qu'il reçoit tout. Et c'est, comme nous dit le prologue de saint Jean, « Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est dans le sein du Père, lui en a été le complète exégète. » C'est comme ça qu'il faut traduire, vous savez, parce que c'est « exégesato », hein, dans le grec. Je me dis, ben voilà, nous les exégètes, nous sommes quelque part dans le prologue de Jean, hein, puisque, voilà, en tout cas, puisque alors que les théologiens, non, vous voyez, finalement, bon. Mais les exégètes sont dans le prologue de Jean, puisqu'il est dit que le Christ a été l'exégète du Père. Donc il a, de fait, tout révélé, ce qu'il a reçu de son Père. Nous sommes au cœur de la... Alors, d'un côté, l'accomplissement de l'oracle de Deutéronome 18, qui annonce un prophète semblable à Moïse, qui parlera au nom de Dieu et qui dira tout ce que Dieu a à dire, première chose, mais aussi d'un côté, bien entendu, la profondeur de la relation unique qui unit Dieu à son Père en vertu d'une filiation naturelle et non pas adoptive, comme c'est pour tous les hommes. Donc, vous voyez ici cette nécessité. Alors, vous avez bien, comme dans Œdipe roi, une des oracles, non pas des dieux, mais de Dieu, hein, qui détermine, enfin, prenons-le au sens le plus flou du terme, qui détermine le chemin de Jésus. On verra après, je vous donnerai des exemples qui montrent à quel point c'est en fait, ce sont ces oracles qui, du coup, sont les clés de l'intelligence du projet de Dieu et de l'identité du Christ. Nous avons bien donc des oracles qui s'imposent à lui, et en même temps, la liberté, vous avez vu que chez Œdipe également, c'est un chemin de la conquête de la liberté politique, hein, mais qui est en fait une sorte de liberté illusoire, mais qui est néanmoins légitime, puisqu'elle exprime au moins l'effort humain pour s'arracher au destin, hein, dans une quête d'une liberté qui se pose elle-même, même si les dieux finiront par avoir le dessus, mais néanmoins, il faut quand même faire cet effort de la liberté de l'homme comme un impératif de conquérir sa liberté, même si on doit le payer très 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 cher, et vous savez que c'est ce qui arrivera à Œdipe par la suite. Donc la liberté, il y a encore une autre chose, cette nécessité qui revient et qui dessine l'itinéraire de Jésus se prend donc d'un certain nombre d'oracles scripturaires. C'est ainsi la volonté du Père qui s'accomplit, une feuille de route dont Dieu a délibéré dans son conseil divin, et dont l'Épître aux Hébreux dévoile la source. Alors là, vous avez évidemment ce texte sublimissime. En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni holocauste ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit « Voici, je viens », car c'est de moi qu'il est écrit dans le livre pour faire au Dieu ta volonté. » Vous voyez le livre écrit, hein, comme témoignage, comme c'est dans l'Ancien Testament, un livre c'est d'abord un témoignage, comme les tables de la loi, qui sont écrites là, pour rester, demeurer, gravées dans la pierre. Et donc, en fait, c'est l'écriture de Dieu qui exprime le projet de Dieu, en fait, c'est le Christ qui l'écrit avec son propre sang, hein, dans sa propre chair, et vous avez ces sublimes poètes baroques du XVIIe siècle, qui comparent le Christ en croix, la croix à une presse, hein, sur laquelle est l'encre au sang, hein, et évidemment et donc ce qui est écrit, c'est eh bien notre propre sanctification, notre salut dans le Seigneur. Et en même temps, quelle liberté intérieure que celle du Seigneur. Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Ou encore Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et le pouvoir de la reprendre. Quelle liberté que le Christ exprime, hein, liberté par rapport à sa propre vie, pour liberté où ? Dans l'amour du Père et dans l'amour de ses frères, pour lequel il donne sa vie. D'ailleurs, comme il le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Liberté également quand il organise sa dernière scène, dans ses moindres détails. Et en règle, vous rappelez comment ça se passe. Vous trouverez un homme portant une cruche d'eau, il vous amènera à un anon, etc. Vous en trouverez un autre qui vous amènera jusqu'à la salle, vous trouverez une salle remplie de coussins. Bref, des choses qui montrent, si vous voulez, que le Christ est totalement libre, hein, dans l'accomplissement de sa passion. Cette liberté intérieure, évidemment, que l'on constate toujours dans sa vie, avec les publicains, avec les pécheurs, avec les prostituées, sans se soucier du qu'en dira-t-on, hein, toujours étant parfaitement maître des situations parce qu'il est par cette liberté. Alors, là, vous sentez évidemment l'abîme, hein, qui sépare Œdipe roi de l'Évangile. Parce que l'efficacité dramaturgique d'Œdipe roi, c'est de faire croire de manière crédible à la liberté d'Œdipe, alors que personne n'est dupe. Il est clair dès le départ que l'ordre cosmique aura le dernier mot. Et par ailleurs, les personnages de la tragédie sont mythiques, alors que les personnages de l'Évangile sont ultra réalistes. À l'examen, il n'y a rien de déterminé, ou plutôt, quel est le mélange entre déterminisme et liberté dans l'Évangile ? C'est que le résultat de l'action sera l'effet de la liberté souveraine du Christ et de sa maîtrise des événements, conformément à la volonté antécédente du Père, au service de laquelle Jésus s'est mis totalement au service. Vous avez évidemment quelque chose de prodigieusement génial, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est en fait la volonté du Père qui fonde la liberté du Seigneur et sa maîtrise des événements. Donc évidemment, la logique absolument inverse d'Œdipe roi, en fait, hein, où ça c'est tout à fait fascinant. Alors, donc vous voyez, la révélation, hein, du Christ à deux étages, en fait. Il y a ce que le Christ dit, donc qui fonde la révélation, mais ce qu'il dit est inséparable de ce qui a été dit, car il l'accomplit. C'est-à-dire que la révélation chrétienne, prend donc une forme spécifique. Ce n'est pas uniquement l'enseignement du Seigneur. C'est que la révélation chrétienne, c'est aussi l'accomplissement de ce qui a été dit dans la mesure où le Christ l'a assumé. Là, vous avez dans une entreprise herméneutique absolument prodigieuse et d'une ampleur inouïe et qui n'a rien de comparable, en fait. Puisque ce que le Christ enseigne, c'est qu'il il s'approprie tout ce qui a été dit pour le faire sien. Il y a ce que le Christ dit, mais qui est inséparable de ce qui a été dit. Vous voyez évidemment tout à l'heure on a vu que au cœur donc je mentionne juste en passant au cœur de la de Œdipe Roi vous avez la question qu'est-ce que l'homme et au cœur de l'évangile vous avez la question qui es-tu et donc en fait on pose aussi la question de son identité humaine et donc là aussi qui est-il et donc tout le monde voit bien qu'il est un homme. Et en même temps, vous voyez bien qu'à travers cette question-là, c'est aussi le chemin pour confesser sa divinité. Qui est-il celui-là pour que même la mère lui obéisse? Dans cette question de l'identité, je vous renvoie à la préface du dictionnaire Jésus, qui là-dessus est assez... elle avait été assez travaillée par le frère Olivier Thomas Venard et par moi, pour vraiment poser cette question de l'énigme, comme cœur même de l'énigme, donc l'intrigue de reconnaissance, comme le cœur de l'Évangile, parce que c'est le Christ révélateur du Père qui est en jeu. Et on sent bien, si vous voulez, que cette question qui pose au centre l'identité humaine du Seigneur comme voie de révélation vers sa divinité, en fait, montre bien que l'herméneutique chalcédonienne est la plus opératoire, celle des deux natures dans l'unité de la personne, pour permettre de comprendre, de répondre à l'énigme posée par le Seigneur. Alors, on ne se lasse pas, bien entendu, de répertorier, du coup, une fois qu'on a compris ce principe. En fait, le Christ se livre à une exégèse dans l'esprit des prophéties vétérotestamentaires en tant qu'il se les applique à lui-même. Il transforme l'Ancien Testament en témoignage de sa propre personne. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Saint Jean, « Lisez Moïse, car c'est de moi qu'il a écrit ». Vous l'exégèse en esprit, oui, puisque regardez Luc 4, 16, il prit le rouleau et il lut ce qui était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction pour évangéliser les pauvres, pour annoncer aux captifs la libération, pour annoncer l'année de grâce de la part du Seigneur, etc. » Vous voyez, cet oracle qui ouvre le ministère public du Christ, c'est en fait une exégèse en esprit de Isaïe 61. Et d'ailleurs, dans un effet de mise en abîme prodigieux, puisque c'est le texte qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi au moment même où je proclame que cette parole s'accomplit en moi. » Vous voyez, c'est bien une appropriation en esprit de la révélation. Alors, je vais terminer par vous donner quelques exemples. Pourquoi j'insiste sur ces choses-là? C'est parce que là, nous sommes, si vous voulez, vraiment sur les fondements historiques les plus solides et les plus irréfutables de la manière dont Jésus a enseigné. C'est-à-dire que la révélation, nous ne la tirons pas d'une exégèse spéculative. La révélation, nous la tirons des propres paroles du Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai fait bien exprès de vous citer tous les lieux où c'est le Christ qui dit « il faut », etc. Et comment après c'est prolongé dans l'Épître aux Hébreux, qui en fait de la parole du psaume la parole du Christ. Parce que, en fait, ça ne fait que prolonger la manière même dont Jésus a enseigné. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est que nous ne sommes pas là devant des espèces de reconstitution postérieure, nous sommes devant la manière dont Jésus a introduit ses disciples au mystère et à l'énigme de sa personne. Alors évidemment, un des lieux les plus irréfutables, le plus visible, et pour moi qui toujours me bouleverse quand j'y songe, c'est le psaume 109. Oracle du Seigneur à mon maître, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de son trône. Pourquoi c'est tellement fondamental? Vous savez, parce que vous avez peut-être remarqué que ce psaume, on le chante pour les vêpres du dimanche. Et pourquoi est-ce qu'il vient sur les vêpres du dimanche? Faisons l'enquête à rebours. Eh bien, c'est parce que lors du discours de la Pentecôte, saint Pierre, pour commencer à proclamer le mystère chrétien, et donc la mort et la résurrection du Seigneur, cite ce psaume. Et donc ça veut dire que le psaume 109 est devenu « Oracle du Seigneur à mon maître, siège à ma droite ».« Siège à ma droite », ça veut dire « c'est la résurrection du Christ ». Pourquoi est-ce que saint Pierre fait comme ça? Parce que à ce moment-là, le terme de résurrection ne veut rien dire. D'ailleurs, la preuve, c'est que les apôtres, à un moment, lorsque Jésus a annoncé sa résurrection entre les morts, ils se disent entre eux, ils se demandaient entre eux ce que signifiait ressusciter d'entre les morts. Donc, vous voyez, ressusciter d'entre les morts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est pas arrivé, où il y a peut-être eu des cadavres qui sont renés, on a ça avec Élie et Élisée, bon, bien sûr, des gens qui ont revécu, mais ce n'est pas la résurrection des morts. Et alors, du coup, on n'a même pas de mot, enfin, si on a un mot, mais un mot vide, un mot qui ne signifie rien, qui n'a pas de référent. Donc comment est-ce que Pierre s'y prend pour proclamer la résurrection? Il n'a pas d'autre moyen que de citer le psaume 109. « Oracle du Seigneur à mon maître, siège à ma droite ». Ça veut dire qu'il a glorifié le Messie auprès de lui en le faisant siéger à sa droite, c'est-à-dire en lui donnant le pouvoir sur toute chair, sur toute chose. C'est en fait ce que vous avez dans Matthieu 28, 20. Hein. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, baptisez toutes les nations, faites des disciples, etc. » Alors, donc voyez, première chose, le psaume 109 a servi à proclamer la résurrection au moment où on ne savait pas encore ce que le mot signifiait. Oui, mais ça remonte plus haut, puisque nous trouvons en Marc 12 un entretien magnifique du Seigneur qui dit aux pharisiens, enfin, pas aux pharisiens, c'est à ses interlocuteurs, c'est pas forcément des pharisiens, d'ailleurs, et il leur dit, n'avez-vous pas lu dans le psaume où il est dit « Oracle du Seigneur à mon maître, siège à ma droite ». Si David appelle le Messie son maître, son Seigneur, comment peut-il être son fils? Ben oui, c'est logique. Si David est l'ancêtre du Messie, il est son patriarche, son père, il n'a pas à l'appeler son maître. Donc, et vous avez vu comment fait le Seigneur. Puisque David l'appelle son maître, ça veut dire que le Messie était avant David. Oui, mais alors, c'est absolument vertigineux, puisque le Seigneur ne dit pas « le Messie n'est pas fils de David ». Non, il dit « puisqu'il l'appelle son maître, comment peut-il en être le fils ?» Il ne dit pas, c'est comme quand la Vierge dit « comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Il ne nie pas que le Christ soit fils de David. Il dit juste, oui, le Christ est fils de David selon la conviction commune, mais il est aussi avant David. Alors c'est sûr que là, ça vous entraîne dans c'est vertigineux. Parce que ça veut dire que le Seigneur parle du Messie comme étant avant David et postérieur à David. Ben, si vous voulez, nous avons là la source de ce qui sera plus tard la confession de la foi, le Christ, Dieu et homme. C'est de là que ça part, en fait. Donc vous voyez que ça... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça part... Là, nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle le bedrock, hein, vraiment le point fondamental du Jésus historique avec cet entretien, parce que c'est Jésus enseigne comme un maître, c'est-à-dire non pas en affirmant des choses, mais comme un maître juif, mais en posant des questions. Ce que nous retrouvons dans l'entretien qui précède la parabole du bon samaritain. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et toi, que lis-tu dans la loi, hein, que, voilà. Vous voyez, le Christ, très souvent, fait comme ça. C'est une manière juive d'enseigner. À une question, on répond par une autre question. et bien là, c'est de la même chose avec le psaume. Le psaume pose un mystère et sur lequel Jésus attire l'attention. C'est d'autant plus intéressant que le psaume 109 est un des rares textes jamais cité dans la littérature intertestamentaire. Ça veut dire que ce psaume, qui existait bien entendu depuis plusieurs siècles, à ce moment-là sans doute, ce psaume était passé totalement sous les radars hein, de ce que nous connaissons de la littérature juive exégétique ou midrashique de l'époque qui précède le Christ. Et donc là, vous voyez, donc, si après, pourtant ce texte est le plus cité du Nouveau Testament. Donc, pourquoi ? Parce que c'est le Christ qui a, de manière très apocalyptique, montré qu'il y a des angles morts dans la révélation qui sont en fait les lieux où il faut regarder en priorité pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parce que c'est la logique même du livre scellé, dont le contenu reste inconnu, et qu'il appartient à l'agneau d'ouvrir hein, et de dévoiler. C'est apocalyptique au sens propre du terme. C'est-à-dire que la manière dont le Christ se situe par rapport aux Écritures est une lecture apocalyptique et spirituelle, c'est-à-dire de dévoilement de ce qui était caché et de révélation, manifestation au grand jour, comme il le dit d'ailleurs lui-même, hein, il n'y a rien de ce qui est caché qui ne doit être manifesté. Donc là, vous avez un cas d'école prodigieux. Le Christ a sorti de derrière les fagots un texte que personne n'avait vu, qui avait semblé... on ne le comprenait pas. Et là, il pose une énigme à partir de lui qui pointe vers la préexistence du Messie et sa filiation davidique. Et ensuite, un texte qui devient ensuite le moyen d'exprimer la résurrection. Et comme vous savez, la suite du psaume, c'est « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek ». Donc, c'est-à-dire un texte tout à fait étonnant, puisque ce Messie, roi, est aussi un Messie prêtre, et dans la même personne. Vous voyez, l'attente du Messie roi et du Messie prêtre, on la trouve dans le judaïsme intertestamentaire. À Qumran, par exemple, il est question des deux fils de l'huile, hein, le Messie roi et le Messie prêtre. Oui, mais là, ce qui est intéressant dans le psaume 109, c'est que c'est le même. C'est le même Messie glorifié, qui siège à la droite de Dieu, qui est aussi le prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Donc vous voyez, pour un psaume, ça vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de christologie quand même, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et là donc, dans un texte où, en quelque sorte, Jésus n'a cité que le début du psaume, comme s'il nous invitait, nous, à poursuivre la lecture et l'appropriation. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous voulez, ça c'est un exemple particulièrement probant et parlant, puisque du coup quelque chose de bouleversant, puisque ça veut dire que depuis que Saint-Pierre a proclamé la résurrection hein, ce jour de Pentecôte, eh bien nous-mêmes nous proclamons la résurrection en chantant ce psaume à vêpres, hein, voilà, aux vêpres du dimanche. Et donc là il y a quelque chose franchement d'assez impressionnant. Alors, voilà, donc je vais m'arrêter là. Tout ceci pour vous faire sentir que là, vous avez en effet le Christ révélation, enfin plénitude de la révélation. C'est ce phénomène unique hein, dans lequel le Christ s'empare des oracles de l'Ancienne Alliance pour se les approprier. Regardez dans, par exemple, le psaume « Voici que la Vierge concevra », Isaïe 7, 14, tel qu'il est cité dans Matthieu 1, 25, eh bien, on voit qu'il est, même changé, de façon à pouvoir s'appliquer encore mieux au Christ. Vous voyez, parce que le Christ polarise vers lui l'accomplissement des Écritures. À la fin de l'Évangile d'enfance de saint Matthieu, il sera appelé « Nazoréen », un texte dont, alors on ne sait pas très bien d'où ça vient, Isaïe 64 probablement, enfin bon, voilà. Mais du coup, ça veut dire que le Christ a érigé des espèces de points latéraux et que personne n'avait vu de l'Écriture en témoignage en sa faveur. Et ça, c'est un... c'est fondamental. On ne peut pas comprendre la révélation chrétienne si on n'a pas en tête cette dimension herméneutique. C'est-à-dire que ce que le Christ nous enseigne, c'est l'appropriation par lui de ce qui a déjà été dit. C'est une appropriation en esprit. Là, évidemment, vous avez, pour rentrer, et du coup, vous comprenez pourquoi il peut dire après, dans le discours de la scène, l'esprit que je vous enverrai d'auprès du Père vous redira tout ce que je vous ai enseigné et il vous fera entrer dans la vérité tout entière. Donc, vous voyez bien que, parce qu'il fait rentrer dans cette relation paternelle et filiale, bien sûr, et donc il introduit donc dans cette totalité à la fois herméneutique, spirituelle et ecclésiale, parce qu'il faudrait prolonger en fait ça en disant comment Jésus a suscité une communauté de disciples précisément pour que ces paroles qu'il leur transmet les transforment eux-mêmes de l'intérieur et fassent que ce qui les unit, hein, ce qui fait leur communion, c'est la demeure de la parole en eux, des paroles qu'il leur a enseignées. Et donc, selon cette lecture spirituelle, d'intelligence, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Voilà. Donc, vous voyez, alors j'ai essayé d'honorer donc parce qu'il paraît que votre thème d'année, c'est la révélation, enfin, vous avez des conférences là-dessus, je vous dis, voilà, comment essayer de fonder vraiment sur le solide rock hein, de l'histoire, ce que l'on peut dire sur le Christ révélateur, hein, et comment est-ce que le Christ s'y est pris pour révéler l'énigme par excellence, dans lequel on entre que en étant initié et qu'en recevant l'Esprit Saint, qui est justement cette question de l'identité du Seigneur, sur laquelle le Père Urfels nous a si magnifiquement prêché ce soir. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons vraiment un phénomène là pour le coup qui est totalement unique, hein, dont on voit bien que ensuite le Nouveau Testament la systématise, hein, et la développe dans quantité de directions que le Christ n'avait pas employées lui-même. Mais qui sont en fait ouverts par le Christ, puisque au parlant d'Emmaüs, il a dit il leur expliqua dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, tout ce qui le concernait. Autant vous dire que ça a dû durer plus qu'une nuit, hein, cette histoire. Donc en fait, en réalité, c'est déjà le temps de l'Église, dans lequel on va, tout ce qui concerne Jésus dans la loi de Moïse, on va le développer, parce que ça va, parce qu'il continue à nous enseigner en nous envoyant l'Esprit Saint. Donc là, nous sommes vraiment sur, si vous voulez, sur le terrain solide de la manière même de s'approprier la révélation que le Christ a transmise comme témoignage en sa faveur, systématisé dans le Nouveau Testament, et puis ensuite, après tout ce qu'on appelle l'exégèse allégorique des pères de l'Église, en fait, c'est le développement de ça.
Okay. Donc c'est voilà. La grande différence avec Oedipe, c'est qu'Oedipe, son existence est commandée par une parole qu'il ignore.
Voilà.
S'il se l'était approprié, ça aurait été Jésus, en fait.
Alors oui, ça...
Dans un cas, Oedipe, son existence est déterminée par un oracle divin dont il ignore tout.
Exactement.
Et à cause de ça, sa liberté, finalement, il adulte. Alors que dans le cas de Jésus, c'est tout le contraire.
Exactement.
Il ne cesse de
s'approprier. Exactement.
Et c'est ça qui fait qu'il est vraiment vivant.
Et voilà.
Et c'est ça qui fait qu'il est vraiment
vivant. Voilà. Voilà. Donc j'arrête là.
Peut-être que vous n'avez pas fini ici.
Non, j'arrête. Alors, on a
c'était merveilleux, vous avez sûrement plein de questions. Alors, c'est pour lever la main, là,
Un peu d'eau.
Alors, ça, c'est sur un truc très, 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 très annexe.
Vas-y,
mais tiens. Sur la paternité dans l'Ancien Testament, j'ai en tête quelques mots de passage où Dieu parle des hommes comme ses fils.
Oui.
Est-ce qu'il y a le sens inverse où il y aurait le psalmiste ou à un moment quelqu'un qui parle de lui comme son père?
Alors, il y a des. Disons que, vous voyez, Origène, dans son splendide commentaire du Notre Père, que je vous invite à lire, dit il n'a pas trouvé dans les écritures juives d'invocation de Dieu comme père. Et. Alors, on trouve en Deutéronome 32, je crois, n'est-ce pas lui ton père qui te maintient, voilà, lui qui t'a fait, il te maintient. En fait, si vous voulez, lorsque on s'adresse à Dieu, il n'y a pas d'invocation à Dieu comme père, déjà. En tout cas, c'est ce que dit Origène. Il y a en revanche des lieux où on emploie père comme une métaphore. Vous voyez ? Mais ça veut dire que c'est pas au sens propre. Vous voyez, c'est une métaphore pour signifier une des propriétés paternelles. Par exemple, le père qui éduque, hein, le père qui aime, le père qui veille sur ses enfants. Enfin, c'est-à-dire que c'est un terme de comparaison dans l'Ancien Testament. C'est déjà beaucoup. C'est même déjà magnifique. Simplement, ça n'est pas un terme employé au sens propre de paternité et de filiation. Or, ce que vous avez lorsque Jésus dit « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Là, nous avons qui éclate l'affirmation de la paternité de Dieu par rapport à lui au sens propre. Et là, pour le coup, c'est pas... Et du coup, je te bénis, Père, d'avoir révélé cela aux sages et aux petits, et de l'avoir caché aux savants. Et là, pour le coup, évidemment, c'est un chapitre absolument magnifique. Ne serait-ce que le terme araméen de Abba, qui a été conservé dans la bouche du Christ, pour signifier, justement, de manière presque lexicale, cette propriété de la relation filiale et paternelle qui l'unit à Dieu. Et évidemment, c'est pour ça qu'après, il nous enseigne le Notre Père. Et on voit bien comment dans l'Épître aux Romains, l'Esprit qui intercède pour nous, avec des gémissements ineffables, en nous faisant crier à nous « Abba, Père ». Que nous pouvons, selon une certaine propriété de terme, appeler Dieu Notre Père dans l'adoption filiale. Alors que pour le Christ, ce n'est pas une adoption filiale, c'est une filiation. Vous voyez ? Mais du coup, dans l'Ancien Testament, on n'a pas ça. On a des choses qui très belles sur la paternité de Dieu. Mais simplement, c'est une métaphore.
Ce que je trouve très beau là-dedans, et j'avais déjà remarqué ça pour l'instant, le passage, c'est que des fois, on pourrait dire, bon, le Christ arrive, il y a une écriture qui le précède, il va donner un deuxième sens, mais qui forcément s'éloigne d'un sens premier. C'est souvent comme ça qu'on présente l'allégorie ou la métaphore. Mais en réalité, très souvent, la manière dont Jésus, certes, donne un deuxième sens, c'est pas du tout un éloignement, c'est au contraire plutôt presque en s'appropriant, ça devient le sens propre.
Exactement, c'est ça.
Quand il s'agissait de l'affiliation, on était obligé d'en parler en disant, enfin, les prophètes, la théologie dans le rue, mais on est fils, mais au sens, on appartient, voilà, dépendance, machin. Mais à un moment donné, on peut prendre le mot, c'est comme si le mot trouvait un pouvoir de dévoilement.
Oui, tout à fait.
De vérité, mais c'est à même la chair de Jésus. C'est ça qui nous distingue vraiment des gnostiques, d'ailleurs. C'est à même la chair de Jésus qu'on peut prendre finalement au sens propre. Ce qui est le sens spirituel, c'est le sens propre.
Exactement.
Ça, c'est incroyable. Ça, c'est là encore, ça nous...
Et c'est ce que dit Saint Jean, hein. Voilà que tu ne parles plus en proverbe, mais clairement.
Dans un passage particulièrement incompréhensible.
Tu
parles clair.
Parce que ce que les gens ont compris, c'est que Jésus, en effet, dans sa bouche, les mots prenaient toute leur signification. Les mots prenaient toute leur ampleur. Voilà. Et du coup, en effet, c'est le sens propre, c'est ce qu'il faisait dire au père de Lubac, que le sens allégorique dans l'Ancien Testament est le sens littéral du Nouveau. Puisque justement, d'une certaine manière, il faut développer le sens littéral des paroles du Christ, et même aller dans la littéralité jusqu'au bout, pour dire ce que ça signifie. Et donc le Christ ne nous parle plus en proverbe, paroimiaris. C'est pas parabole, hein. C'est paroimiaris, cet endroit-là, oui. Voilà.
Une autre question. Vas-y.
Vous disiez un moment que le Christ récupère des passages de l'Ancien Testament qui ont été oubliés par l'exégèse juive.
Oui.
Est-ce que c'est le cas de tous les passages ou il y en a certains qui étaient justement les passages par lesquels quand même les Juifs attendaient le Messie? Par exemple, quand à Nazareth il prend l'oracle d'Isaïe, c'était un passage qui était bien présent dans l'esprit.
Oui, alors le texte en question, il y a en fait ça pose toujours des difficultés, mais il y a en tout cas dans la citation qu'il donne, un morceau d'Isaïe qui est la haftara de Yom Kippour. Donc c'était une lecture liturgique.
C'est l'ouverture de haftara, voilà. On ouvre par un verset de... prophétique, voilà. C'est le commentaire qu'on va faire.
Exactement, oui, voilà. Et donc, c'est pour ça que ça fait dire, si vous voulez, que l'année de grâce qu'il est venu ouvrir, c'est l'année, la 490e année de Daniel, qui correspond à l'accomplissement du sacrifice d'expiation définitif qu'il va opérer. Bon. Et donc, là, en l'occurrence, c'est sûr que Jésus s'est aussi emparé de lecture liturgique, qu'il s'est attribué à lui-même. Là, c'en est un exemple, par exemple. Aussi, après, que sur les lieux très attendus, parfois, il peut être un petit peu ambigu. Vous voyez, justement, par exemple, sur le Messie, bon, là, on sent qu'il y a tellement d'ambiguïté, ça peut être source de telles incompréhensions qu'il n'assume pas ce titre sans réserve, hein, comme on l'a vu encore aujourd'hui, voilà, dans la lecture de ce jour. Après, il y a d'autres lieux, par exemple, le Deutéronome 18, hein, voici que le Seigneur va envoyer un prophète semblable à Moïse, enfin, semblable à lui, il mettra ses paroles dans sa bouche, et ça, en fait, toute une partie du discours des adieux dans Saint Jean est vraiment la reprise de ça. Je dis ce que j'ai appris de mon père, enfin, c'est Deutéronome 18, donc là, il y a des lieux un peu attendus, si vous voulez, hein, voilà. Mais après, c'est à voir au cas par cas. Et après, il y a une dimension apocalyptique qu'il ne faut pas négliger. C'est que justement, les textes oubliés, ou si vous voulez, ou pas vus, simplement passés inaperçus. Ce n'est pas forcément oublié, c'est peut-être simplement, on ne les avait pas remarqués. Et ça, c'est comme la réforme deutéronomique a été diligentée par la découverte d'un rouleau de la loi enfoui quelque part dans les caves du temple et oublié depuis un siècle, voire plus. Et bien, donc, et du coup, le livre ressurgit, parce que le livre a la propriété de garder les paroles alors même qu'on les oublie. et du coup, ça entraîne une réforme extraordinaire et un renouveau religieux très profond en Israël. Et bien, ça, c'est presque un topos dans la littérature apocalyptique, c'est-à-dire de ces livres scellés et rouverts, lorsqu'on trouve la clé, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Eh bien, en fait, c'est exactement dans la même manière que Jésus s'empare d'un certain nombre d'oracles vétérotestamentaires passés inaperçus.
Moi, je dirais qu'il faudrait les deux, parce que si Jésus fait que répéter que s'il y a dans la tradition, on dira, bon, bah, c'est un fils de son peuple comme un autre. Mais s'il fait que d'aller taper dans les versets pas connus, disons, bon, c'est vraiment un original, il y a toujours nature grâce, hein, accomplissement, il y a continuité, dépassement. Et en fait, ça donne du prix aux deux. C'est justement parce que Jésus, comme un bon juif pieux, il a les petites machinettes, là.
Voilà.
Qui montrent que c'est un bon juif, que quand il prend des libertés avec le Shabbat, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? S'il fait toujours n'importe quoi avec la loi, en fait, ça nous. Bon, il reste pas quoi le Shabbat, mais on sait qu'il s'en moque de la loi. Mais justement parce qu'il montre, sur certains points, qu'il est obéissant, là, entre guillemets, transgression. C'est pas pour le plaisir de transgresser, qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut vraiment les deux. Donc à la fois, il va investir des lieux attendus et en même temps manifester une originalité incroyable sur des versets, effectivement. Voilà. Il faut les deux. Mmh. Et il le fait de manière. On est quand même débordé. Hein,
mais il y a quelque chose, si vous voulez, il n'y a pas d'équivalent. C'est-à-dire que des exégèses allégoriques, ça a été essayé sur Homère, avec d'ailleurs beaucoup d'artifices et des résultats assez moyens, il faut bien le reconnaître, par rapport au texte d'origine. Qu'en fait la lecture allégorique soit à ce point convenante et congruente, hein, là il n'y a pas d'équivalent de ça. Et là nous sommes vraiment devant un phénomène littéraire, hein, qui est totalement unique, hein, qui ne peut avoir comme auteur que le Christ lui-même, en fait. C'est très net. Le Christ comme premier jalon de cette chaîne. Et du coup, après, vous comprenez bien comment la Bible chrétienne s'est structurée comme Ancien et Nouveau Testament. Voilà. Et après, du coup, les conséquences littéraires et dans la croissance des textes, elles sont infinies de ça. Simplement, il faut situer le Christ à l'intersection entre les deux. Parce que le Nouveau Testament n'est pas purement et simplement la continuation de l'Ancien, mais il n'est pas non plus une rupture avec l'Ancien. Il est un accomplissement de l'Ancien. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de fascinant, parce que ça donne à la fois la profondeur antédiluvienne à la parole du Christ, ça la fait venir du fond des âges, et ça la fait remonter même jusqu'à Dieu, comme fait le prologue de Jean, et en même temps, ça lui donne une espèce de pertinence, qui la rend disponible aussi pour l'actualisation. Donc voilà, c'est un, c'est, la, quand, la, c'est fondamental, ça se dit, pour de comprendre la révélation de, que le Christ apporte à travers ce prisme-là. Sinon, autrement, on passe à côté de...
On est aux antipodes de Bultmann, là, vraiment, où Jésus, on ne sait même pas ce qu'il fait. Là, c'est toute la communauté primitive qui crée tout. On est vraiment aux antipodes. Hein.
Voilà, voilà.
Alors, c'est merveilleux, hein, vraiment, moi je suis enthousiaste de votre...
Voilà, mais ça c'est le. Alors vous voyez, donc un certain nombre d'entre vous ont travaillé un projet que je leur avais soumis il y a un peu plus d'un an, et je les remercie beaucoup parce que vraiment ce qu'ils ont fait était formidable. Et donc c'est un livre d'un frère de l'école biblique, le frère Anthony Giambrone, qui est américain, et donc qui a publié un livre qui s'appelle La quête du Christ historique, parce que il y a le grand truc et la quête du Jésus historique, et donc une espèce de vieille question, enfin, scientifiquement très très intéressante d'ailleurs, par rapport à laquelle de toute façon on doit se situer comme docteur et comme catholique. Et donc ce livre apporte, si vous voulez, une connaissance des débats prodigieuse, et si vous voulez, il développe beaucoup plus cette vision que là je vous ai donnée de façon un peu raccourcie. Hein. Et donc c'est un livre qu'il faudra peut-être travailler en aumônerie, ça c'est possible.
Pourquoi
voilà. Oui, voilà. Et c'est parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment, il est au cœur de tout un tas de questions très très importantes. Et donc il paraîtra normalement aux éditions des Belles Lettres au mois de mai. Mais bon, avec les éditeurs, on ne sait jamais quand c'est réalisé. Il n'y a que en fait quand ils vous disent où on le fait que là on sait que ça va arriver. Autrement, ça peut attendre des mois.
Allez, on va prier les complices, mais encore merci.